Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles, c'est parti! Le podcast des maternelles, le podcast bien sûr, France Télévisions, et aujourd'hui on parle du mois d'or. Vous savez pas ce que c'est le mois d'or?
Si, vous savez
ce que c'est le mois d'or? Le mois d'or c'est le premier mois, juste après l'accouchement. Le mois d'or c'est une belle manière d'en parler, non? Parce que généralement quand on en parle c'est pour dire que c'est dur, qu'il y a le baby blues, qu'il y a la fatigue qui arrive, etc. Ce qui est vrai! Évidemment, mais on peut aussi voir le verre à moitié plein en se disant que c'est un mois qui est formidable, on découvre son enfant, etc. Donc, dans cette émission, on va parler du mois d'or. Avec qui ? Delphine. Delphine, elle n'est pas maman d'un enfant, ni de deux enfants, ni de trois, non, ce serait trop simple, ni de quatre. Delphine, elle, c'est la maman de cinq enfants. Donc, on va entendre comment elle a géré à chaque fois ces mois d'or. D'ailleurs, c'est d'or, D'OR. Hein. Vous vous doutez bien que c'est pas D-O-R-T ou D-O-R-S, car personne ne dort pendant ce premier mois. Nous serons juste après le témoignage de Delphine. Avec Marie-Maë Poulain, qui est psy et auteur d'un livre qui s'appelle justement Le Mois d'Or. Vous avez vu comme c'est bien fait tout ça? Allez, vas-y, Agathe, Agathe Le Caron, c'est à toi.
On parle tellement souvent dans cette émission du fait que les semaines qui suivent l'accouchement sont des périodes très compliquées pour les femmes. C'est vrai que les mères peuvent se sentir fragilisées. Et dans certaines cultures, notamment la culture chinoise, on pratique ce qu'on appelle le mois d'or, c'est-à-dire repos total 40 jours après l'accouchement. Alors ça permet évidemment à la femme de se reposer, de vraiment rencontrer son enfant, de créer le lien avec lui. Et bien Delphine, c'est ce que vous avez fait. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la maman donc de 5 enfants. Il y a Éléonore, Inès, Apolline, Irina et Armand qui a 6 mois, qui est dans les coulisses, exactement, dans les bras de son papa. Et pour les deux derniers, vous avez pris le temps et vous avez expérimenté ce fameux mois d'or. 5 enfants, donc forcément 5 histoires différentes, 5 accouchements différents. Pour Éléonore, par exemple, vous rêviez d'accoucher sans péridurale, mais vous avez été déclenchée, donc ce n'était pas ce que vous attendiez. Comment s'est passé votre postpartum, sachant que vous avez eu cette petite déception? Est-ce que vous avez pu quand même vous reposer? Est-ce que ça reste un bon souvenir?
Ça reste un très bon souvenir parce que c'est l'arrivée de ma première fille. C'est vrai que le postpartum, ça a été plus compliqué. J'étais vraiment épuisée et j'ai vraiment aimé tout de suite cette petite fille. Mais c'est vrai que j'avais encore une grosse échéance professionnelle. Donc j'ai essayé complètement de maintenir ma vie d'avant. Et j'avais eu une sage-femme qui m'avait dit « reposez-vous quand elle dort, dormez quand elle dort ». Mais pour moi, ce n'était pas audible, c'est quelque chose que je n'entendais pas. Et donc c'est vrai que j'ai voulu à tout prix continuer ma vie d'avant. Comme si l'avant-après, ce n'était pas pareil.
Donc vous étiez
c'était
quand même épuisée.
J'étais épuisée, ouais. J'ai vraiment fait avec le recul, je vois que j'ai fait un épisode de dépression postpartum.
Ah, carrément?
Carrément, oui. Enfin, sur le coup, on ne se rend pas compte. Mais après, je vois que c'était vraiment ça. Et donc, c'est vrai que mon mari a réagi tout de suite. Et donc, on a...
Vous avez un chouette mari, on va en reparler. Comment vous avez réussi à sortir la tête de l'eau, alors, avec tout ça?
Justement, donc Frédéric a vu que j'étais fatiguée, que j'étais dépassée. Et donc, il a tout de suite dit, bon, on va prendre quelqu'un pour nous aider, parce que lui, il était en train de terminer son doctorat. Mmh. Donc, il ne pouvait pas être là la journée. Et donc, on a pris une trentaine d'heures par semaine et qui est venu m'aider dans les tâches quotidiennes. Et puis, même ne serait-ce que pour prendre la petite, l'amener promener. J'avais 2 heures pour moi, j'avais besoin de me retrouver. Et c'est fou, parce que en fait, j'étais vraiment dépassée par les événements. Je me noyais dans un verre d'eau, alors que j'avais qu'un studio à l'époque, qu'un seul enfant, entre guillemets.
Aujourd'hui, vous en avez 5 et vous vivez beaucoup mieux.
Ah, mais beaucoup mieux. Ah oui, complètement.
Mais vous avez justement, j'imagine, tiré des leçons de ce postpartum, de la façon dont vous êtes organisée?
Alors, pas forcément tout de suite. Si, pour la deuxième, on s'est quand même préparé un peu comme une guerre nucléaire. Voilà, c'est vrai qu'on savait que ça allait être difficile, donc là, on a anticipé. Et là, on a trouvé curieusement assez facile l'arrivée de la deuxième, comparé à ce qu'on s'était préparé.
Mais c'est vrai. C'est étonnant, c'est qu'en préparant cette émission, vous nous avez dit que vous n'avez finalement pas changé grand-chose pour le deuxième.
Non,
le
on n'a pas changé grand-chose. Déjà, je connaissais pas le d'or. Donc j'avais pas... Voilà, on était pris par nos obligations professionnelles et je me suis pas vraiment posée, donc ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup tiré sur la corde pour le deuxième et troisième, et je continue dans un épuisement. Et c'est avec le recours plus tard que je me rends compte que j'étais dans un burn-out, mais on a continué parce qu'on avait des choses à faire, on pouvait pas changer, mais je vois vraiment une différence énorme entre la quatrième et le cinquième. Où vraiment, on a fait vraiment différemment.
Bah, on va y venir, mais il faut dire que là, à l'époque où vous avez eu votre troisième enfant, vous étiez en Australie, c'est ça?
Alors, c'est la quatrième, on est en Australie.
Ah d'accord, quatrième.
Voilà, c'est la troisième. Bah, en fait, on a continué notre vie. En fait, les enfants ont toujours fait partie de notre vie privée ou professionnelle, parce qu'on travaille, on est chef d'entreprise. Donc, on a toujours, les ai toujours amenés avec nous. Voilà, ils ont, j'ai jamais fait garder. J'ai toujours amené les enfants dans toutes nos obligations professionnelles. Ah oui, vraiment.
Bah, oui, comme vous êtes chef d'entreprise, à la limite.
Exactement. Voilà, j'ai jamais demandé la permission d'emmener les enfants. J'ai toujours amené mes enfants partout. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui vous est dit pour cette quatrième grossesse ? Là, donc, vous êtes en Australie, vous dites, OK, moi, je veux un changement radical. Je veux plus que ça se passe comme ça.
En fait, déjà, je pense que j'ai lu beaucoup pour la quatrième, parce que j'avais du temps, on était vraiment en année sabbatique, donc j'ai beaucoup lu sur l'accouchement, la grossesse, j'ai découvert le mois d'or, et donc je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, et puis j'avais le temps, en fait, de pouvoir vraiment me poser, me reposer, et j'ai surtout pris le temps, parce qu'en fait, le temps, je ne l'ai pas plus maintenant, je l'ai encore moins pour le cinquième, avec tout ce qu'on fait, mais on a pris le temps, et on a décidé de vraiment le prendre ce temps-là.
Vous avez dit, je vais accoucher à la maison ?
Oui. Donc c'est un projet qu'on a depuis le troisième, donc ça n'a pas pu se faire pour notre troisième. Pour la quatrième, on a donc on refait ce projet, donc on avait une sage-femme qui devait m'accoucher à la maison. Finalement, pour des raisons médicales, ça n'a pas pu se faire en dernière minute. Mais en Australie, c'est complètement différent d'en France. Donc on a un gynécologue ou une sage-femme qui nous suit donc pendant toute la grossesse et qui vient nous accoucher à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire qu'on tisse un verre.
Ça, c'est super.
Ah oui, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on connaît sa sage-femme. En France, on connaît sa sage-femme ou son gynécologue, mais à l'hôpital, on a quelqu'un de différent. On découvre. Alors que là, on a vraiment ce lien. La sage-femme peut nous connaître bien, connaître voilà, nos forces, nos faiblesses. Et ce qui est vraiment important, et on a une personne référente pour l'accouchement. Et donc, moi, j'étais en hôpital public. Mais j'ai pu avoir du coup ma sage-femme privée. J'avais la sage-femme de l'hôpital. Et au moment de l'arrivée d'Armand, il y a une deuxième sage-femme qui est dédiée. Et sachant que la sage-femme de l'hôpital était là tout l'accouchement. C'est pas elle vient, elle check, elle s'en va. Elle vient, elle check, elle s'en va. C'est vraiment, si j'accouche pendant 10 heures, elle est là pendant 10 heures. Mmh. Et donc, c'est complètement différent. J'avais aussi ma doula qui était là, qui s'occupait des enfants, parce que je voulais une personne dédiée, parce que je voulais pouvoir que mon mari puisse être que pour moi. Il y avait mon mari et il y avait nos trois filles.
Ouais, donc c'était toute une armada.
Exactement, en fait, il faut savoir que là-bas, les chambres sont démédicalisées, c'est-à-dire que tout le matériel médical est caché dans les armoires, vous avez des tableaux, des lampes à sel, il y a une ambiance stabilisée. Vous avez l'impression d'être dans un hôtel 4 étoiles. Grand lit.
Dans l'hôpital public.
Ah, complètement, dans l'hôpital public. Et autre particularité qui est fantastique, une fois que vous avez accouché, ils nettoient. Et ils s'en vont et vous dormez là. Vous n'êtes pas déplacé. Pas... Exactement.
Ah ouais, ça, c'est génial.
C'est génial. Et vous dormez dans l'endroit. Donc c'est beaucoup moins perturbant parce que j'ai le souvenir ma première où c'était comme ça, on vous déplace dans la chambre. Et c'est... vous êtes tellement fragile à ce moment-là que vous avez l'impression d'être traumatisé.
Alors bon, là à ce moment-là, vous expérimentez le fameux mois d'or. Racontez-nous.
Alors, on avait anticipé. Donc mon mari voulait aussi profiter du bébé. Donc il s'est pas dit je vais faire tout seul. On a pris une petite jeune fille qui s'occupait des filles. Donc il y avait Éléonore qui était à l'école en Australie et les deux autres qui étaient à la maison et qui étaient un peu en jardin d'enfants aussi.
Et vous étiez au lit?
Ah moi j'étais au lit toute
la
journée.
Vous étiez au lit et vous profitez d'Irina, vous profitez
exactement,
de votre bébé.
Exactement. Je me suis reposée, j'ai donné à mon corps l'occasion de se reposer parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais après l'accouchement, moi j'appelle ça la déchéance du corps. C'est-à-dire qu'on passe d'un accouchement où on est hyper puissante, on a une force incroyable,
une fragilité extrême.
Genre même, je me souviens, mon mari à un moment j'ai essayé de mettre mon pantalon comme ça, j'avais les mains qui tremblaient, puis il me dit mais ma chérie assieds-toi, tu sais mettre un pantalon, t'as pas besoin de me prouver que tu sais mettre un pantalon. Et j'avais, rien que pour lever la jambe, j'avais l'impression d'avoir 90 ans. Quoi. Et c'est vrai que si on n'est pas préparé à ce tsunami, en fait, on est vraiment
Et donc, en fait, vous restez 40 jours avec votre bébé.
Oui.
Mais de temps en temps, vous allez vous balader quand même?
Même, on a dû aller faire son passeport, et j'ai l'impression que c'était une épopée. Donc non, vraiment, je restais dans mon lit, je lisais, je regardais le bébé, je l'allaitais, je me reposais, c'est vraiment une bulle, un moment où... mais c'est surtout que je me demande comment j'ai pu faire avant de ne pas faire ça, en fait. Une fois qu'on l'a expérimenté, je me dis... En fait, c'est dingue de ne pas l'avoir fait avant, parce que... En faisant le mois d'or, je me sentais faible et fragile, en fait.
C'est ça. Et votre entourage a réagi comment, de dire, tiens, Delphine est au lit pendant 40 jours, quoi?
Il y en a qui vont dire toi t'as la chance parce que ton mari il peut s'arrêter, moi je peux pas parce qu'il y a personne, alors chacun fait en fonction de ses moyens, on a toujours une voisine, une grand-mère, une belle-sœur, après c'est vrai qu'il y a aussi la prime de naissance qu'on peut éventuellement utiliser comme ça, on peut s'organiser au préalable avec des repas, après il y en a qui me disent mais moi je peux pas, il faut que je bouge, je peux comprendre ça parce que j'ai eu cette réaction pour ma première, mais je trouve que dans l'ensemble, on récupère bien mieux, en fait.
Mais bien sûr.
Si on se repose et on peut repartir bien plus fort.
Et puis, on n'a pas la charge mentale de l'organisation de la maison. Tout ça, c'était votre mari qui s'en occupait?
Ah oui, complètement. Moi, je suis déconnectée pendant un mois et demi.
Voilà, donc il faisait les machines, il faisait les courses, il faisait les repas, les menus, tout.
Exactement.
Vous apportez votre plateau au lit?
Ah oui, moi, je suis la princesse dans mon lit.
Mais quelle embellie. Tu m'entends, chérie? Est-ce qu'on peut faire des mois d'or quand on n'a pas accouché ou pas? C'est juste une question. Et comment est-ce que vous vous occupiez de vos aînés, quand même?
Alors, c'est vrai que même si j'ai 5 enfants, j'ai l'impression que le nouveau-né est très fragile, et j'ai l'impression qu'il va se casser en deux. Et j'ai vraiment le réflexe assez louve. Même je vois pour le 5e, c'était pareil. Où en fait, j'ai vraiment besoin d'être dans cette bulle, dans cette coquille. Et quand les enfants venaient, ben, j'étais contente de les voir, mais j'étais contente que ce soit à petite dose, entre guillemets. Mm-hmm. Parce que.
Et elle comprenait?
Ah oui, elle comprenait. Ben, en fait, elle venait voir le bébé, elle était contente, mais je sentais que c'était comme une visite à la maternité où, voilà, on vient, on passe quelques minutes, et puis voilà, j'ai vraiment besoin de protéger le bébé, même si je leur laisse voilà, le prendre dans les bras, etc. Mais vraiment. Ouais, vraiment protection. Et après, ça change. Hein. Faut pas croire qu'on reste dans cet état de bulle pendant des semaines et des semaines. Au bout d'un moment, ça évolue naturellement.
Oui, on a envie de reprendre sa vie.
Ah, oui.
Vous avez recommencé avec Armand.
Oui, exactement.
Donc, vous avez refait le mois d'or.
Exactement.
Toujours avec un mari. Quand même, on peut rendre
hommage.
Ah non,
hommage. Mais mon mari, il est exceptionnel. Hein. C'est un 6 étoiles sur 5.
Mais c'est fou, ça. 6 étoiles sur 5. C'est vraiment
bien. Ah non, il est exceptionnel.
Oui, parce qu'on ne pourrait pas faire ça avec tous les coparents, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est accouchement incroyable pour Armand.
Ah, fabuleux. Fabuleux. Donc, j'ai enfin, après 3 essais, donc la troisième était la bonne, pu accoucher à la maison, dans la baignoire, enfin, c'est une baignoire d'accouchement, enfin, mm-hmm. un spa d'accouchement. Ah, voilà, la lueur des bougies, donc, c'était exceptionnel.
Et le mois d'or était formidable aussi.
Le mois d'or était exceptionnel.
Alors, vous dites à un moment, naturellement, en fait, on sort de cet état. Il faut vraiment 40 jours?
Franchement, ça correspond à 40 jours. Je sais que j'avais une petite... Comme je savais que ça durait à peu près 30-40 jours, 30 jours, j'étais vraiment bien dans ma bulle. Je me suis dit, je voudrais que ça dure toute la vie. 40 jours, je commençais à me dire, tiens, bon, ça va être bientôt la fin. Comme si je m'étais mis une deadline. Je pense que mon mari aussi commençait à me dire, bon, c'est... Voilà. Voilà. Et puis, naturellement, en fait, j'avais envie de descendre dans la cuisine, voir les enfants. Ça s'est fait naturellement, en fait. Il ne m'a pas dit, tiens, ça fait 40 jours, clic-clic, c'est bon, il faut repointer, là. Et ça s'est fait naturellement. Les enfants revenaient plus longtemps, puis je descendais, je suis allée me faire des promenades dans le jardin. Donc, naturellement, je sentais que j'en avais marre, en fait. Mmh. Commençais à avoir marre, que j'avais envie de plus de contacts, de faire plus de choses.
Vous aviez peut-être envie de retrouver votre intimité, non, aussi, avec votre mari? Parce que c'est vrai que 40 jours au lit, c'est 40 jours sans lui, non?
Ah non, mais de toute façon, lui, il était toujours avec moi. Donc, il dormait avec moi, on était bien, on se retrouvait le soir tous les deux.
Quel bénéfice est-ce que vous en tirez avec le recul?
Immense, parce qu'après, j'ai pu reprendre une activité, parce qu'on on est toujours dans le chef d'entreprise, dans une autre entreprise. Mais du coup, j'ai pu redémarrer efficace.
Mais vous sentez la différence entre vos deux derniers dans le lien que vous avez créé, par exemple, par rapport aux 3 premiers?
J'ai toujours un lien très fort. Après, je dirais que l'allaitement, ça s'est bien passé globalement. À part par la première, c'était compliqué. Oui, j'ai quand même beaucoup plus posée, j'ai vraiment pris ce temps avec le bébé, sans culpabiliser.
Ça, c'est formidable. Ouais. Parce que oui, c'est très important cette notion-là, c'est on
ça.
En reparlera.
Oui, c'est surtout ça, en fait.
C'est le mois d'or.
Sans culpabiliser, parce sans que j'avais une raison de me reposer, en fait.
C'est ça. Parce que si on culpabilise, alors là, c'est franchement, ça fait l'effet inverse.
Tout à fait. Surtout qu'en plus, je suis plutôt quelqu'un qui ne me pose pas trop. Et on va dire, avant l'accouchement, tout le monde dit, il faut que tu t'arrêtes. Et donc, jusqu'à l'accouchement, j'ai travaillé, parce que je me sentais bien. Pour moi, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Donc, j'ai continué à faire ma vie. Et sauf quand vraiment mon corps me dit stop, j'arrête. Mais là, même si avant l'accouchement, je ne me suis pas du tout arrêtée, après l'accouchement, j'ai arrêté complètement et je ne dis pas que je suis restée à rien faire parce que c'est faux. Je me suis occupée de mon bébé, du tisser le lien avec le bébé,
et de vous,
et de moi, et de voilà, laisser à mon corps récupérer de ce tsunami qu'est l'accouchement.
Bonjour Marie-Maë Poulain, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes co-auteure avec Cécile Chadelat d'un livre qui s'appelle Le Mois d'or. C'est livre et cahier d'exercice, hein. Il y a les deux et ils sont publiés aux éditions Presse du Châtelet. Alors, d'où vient cette pratique? J'en ai jamais entendu parler. Et puis, ça correspond à quoi? Ça vient d'où? Enfin, expliquez-nous tout.
Alors bonjour déjà, enchantée. Le mois d'or, c'est ces 40 jours, 30 à 40 jours après l'accouchement, où il y a effectivement des enjeux physiologiques, psychologiques, identitaires pour la femme. C'est une pratique qu'on retrouve, c'est une période plutôt qui est reconnue dans le monde entier, de manière ancestrale, dans plein de traditions. C'est le terme du mois d'or, c'est issu du mandarin, de la médecine chinoise. Mais en fait, on retrouve la quarantena en Amérique du Sud, la quarantaine, on retrouve ça, oui, la quarantaine au Maghreb, chez les Inuits, dans des pays d'Afrique, ici dans notre pays, les relevailles. Donc c'est quelque chose qui a été un petit peu oublié et qu'on réactualise aujourd'hui et dont le principe fondamental, c'est de venir entourer la famille et la femme qui vient d'accoucher avec, avec des savoir-faire particuliers, des pratiques et soutenir la famille et les déléguer de tout ce qui est quotidien pendant cette phase, afin que la femme puisse vraiment récupérer et tisser les liens avec son bébé.
Embellie. Bon, pardon. Ça fait tellement rêver.
Après, je pense qu'il y a plusieurs manières du coup de vivre ce mois d'or, de l'organiser. Mm. On a reçu une question pour vous en vidéo de Nikita. Regardez.
Okay. Je m'appelle Nikita, je suis la maman de Blanche, un mois. Et je voulais savoir comment, après les contraintes de la grossesse, on pouvait conjuguer l'envie de reprendre une activité normale et le fait de devoir se reposer durant le mois d'or. Merci beaucoup.
Oui, alors ça, c'est vraiment une question pour les femmes d'aujourd'hui. Comment j'ai mon retour à l'activité et cette habitude hein, qu'on a d'être dans la gestion, dans l'action. Et en même temps, cette conscience qui vient de plus en plus de dire « il y a peut-être un enjeu autour du postpartum pour moi ». Moi, je trouve que plus on prend conscience de ce qui est en jeu, en fait, dans nos corps de femmes, tout ce processus de dégestation, donc du corps qui sort de l'état de grossesse, hein, c'est pas l'accouchement, puis le lendemain, ça y est, c'est fini, tout est fini. Et si on prend conscience qu'en prenant soin de ce moi, de manière vraiment privilégiée, on va recouvrer ensuite une énergie bien plus ample que si on s'est remis tout de suite à l'action, si on prend conscience que ça joue sur notre santé. On parle de la santé gynécologique, bien sûr, avec le périnée. Il y a quand même énormément de problématiques au niveau du périnée, de descente d'organes ou de choses un petit peu moindres, des fuites, des choses comme ça, qui sont majeures, qui sont très fréquentes en postpartum et qui jouent pour tout au long de la vie. Mais c'est vraiment aussi une question de santé à long terme. En Chine, notamment, et de manière vraiment ancienne, les familles, même les plus pauvres, avaient recours à des aides. Naturellement, c'était la famille qui venait. Mais si la famille n'était pas présente, ils payaient des aides pour venir les déléguer de tout le quotidien parce qu'ils avaient conscience qu'en payant même peu sur ce premier temps-là, ils investissaient sur le plan de la santé de la femme et qu'elle allait être en meilleure santé toute sa vie.
Mais là, concrètement, pour Nikita, une femme qui est active, qui travaille, à ce moment-là de sa vie, si elle décide de faire le mois d'or, elle coupe complètement avec son travail et avec ses mails, par exemple.
Alors moi, je trouve qu'il n'y a pas de règle stricte. Ça, c'est très important. Il y a le mois d'or, ça veut dire avoir des conditions favorables pour récupérer. Et ensuite, chaque femme l'adapte à sa vie. Mais en général, on a toujours tendance à en faire plus. Donc, je pars du principe que si on se dit non, parfois, on en fait quand même un petit peu. Et puis, on fait au fur et à mesure. Ça veut dire qu'on essaye, par exemple, il y a les 10 premiers jours du mois d'or, de rien faire du tout, de couper complètement, parce qu'on a vraiment un bénéfice à couper pour y revenir par la suite. Voilà, mais pas se faire avoir.
On peut quand même regarder des conneries sur Instagram pendant le mois d'or. Non, vous déconseillez. Non, je pense pas. Valérie,
vous fait du bien, donc ça peut être sur les réseaux.
Comment faire le mois d'or si le papa ne peut pas prendre de congé et si on n'ose pas solliciter sa famille, vous demande Valéria.
Oui, ça c'est une grande question parce qu'effectivement on parle beaucoup et du conjoint et des proches. Cependant, il n'y a pas que la famille. Vraiment, nous on invite, on appelle ça les bonnes étoiles du mois d'or, donc c'est tout ce cercle qu'on va créer autour de nous pour nous soutenir. Bien sûr le conjoint, bien sûr la famille, mais on a aussi des amis, on a des cousins, des cousines, on a, ça c'est la famille, ça compte pas, mais des voisins, des voisines, et on peut également avoir recours à des professionnels, comme une doula, comme une TISF aussi, il y a des professionnels qui sont également pris en charge par la CAF. Une TISF, c'est des personnes qui sont commanditées par la CAF. D'accord. On peut avoir des aides pour qu'elles viennent faire le ménage à la maison, mais aussi des aides avec bébé. Il y a énormément de possibilités, donc ne pas hésiter aussi, quand la famille n'est pas là ou loin géographiquement, à faire appel à d'autres aides et à élargir nos horizons. Parfois, ce n'est pas les personnes qu'on connaît le plus qui vont forcément être présentes parce qu'elles peuvent être débordées ou vraiment ne pas comprendre ce besoin-là. Et en parlant à des personnes qu'on connaît peut-être un peu moins, des nouvelles amies rencontrées qui ont vécu une maternité il n'y a pas si longtemps et qui se rappellent encore à quel point elles auraient aimé, on peut vraiment trouver d'autres ressources. Et ça, c'est à penser en couple, par contre. Même si le conjoint n'est pas présent pendant le mois d'or, on peut ensemble essayer de réfléchir à ce réseau et vraiment se poser sur papier, lister toutes les personnes
personnes qui pourraient, qu'on pourrait
avoir. Il y a quand même dans le cahier des charges des moments où vous conseillez de bouger un peu, parce que c'est peut-être, on dit le mouvement, c'est la vie. Karim est dans les coulisses, c'est pour ça que je pose cette question. Peut-être un peu aller marcher quand même, non? Ou rééduquer son périnée? Ou tout ça, on attend, on fait après, on fait comme on sent?
Alors nous, on conseille vraiment d'attendre, parce que l'idée, ça ne va pas être de rééduquer tout de suite, ça va être de préserver. D'accord. Ça veut dire que la rééducation, on parle souvent des 6 semaines après l'accouchement, l'idée, ça va être de préserver. Et là, la posture de l'horizontalité, notamment, ça c'est une des choses qu'on conseille beaucoup dans le mois d'or, mais ça ne veut pas dire être allongé H24, mais tendre vers ça.
Alors, première question de Brune qui vous demande concrètement qu'est-ce qu'on fait? On reste vraiment au lit 40 jours?
Alors en fait, il y a effectivement l'importance de l'horizontalité pour éviter les pressions du périnée et récupérer. Cependant, c'est important de sortir de la caricature aussi, qui parfois fait peur. Hein, on discutait aussi, mais parfois, mais qu'est-ce que je vais faire allongé pendant 40 jours? Donc comment je prends conscience de ces enjeux-là? Mais en même temps, je me rends compte que c'est quelque chose de progressif. Ça veut dire que c'est différent entre les 3 premiers jours, les 10 premiers jours, les 20 premiers jours, les 40 premiers jours. Donc plus on peut... plus on s'allonge, mais on vit quand même dans notre vie, mais on va éviter par exemple de porter des charges lourdes, on va apprendre à expirer à l'effort, on va apprendre à davantage prendre conscience de ce corps qui vient de donner la vie quand même, on vient d'accoucher, donc on a vraiment pleinement le droit, pour toutes, hein, vraiment pleinement le droit à cette période de repos pour reprendre de l'énergie ensuite. Ça c'est très important parce qu'en fait, pour qu'un bébé aille bien, on pense souvent au bébé, mais il faut que la maman aille bien. Mmh. Et pour ça, on a besoin de se reposer, on n'a plus l'habitude, on est dans une société où on va vite, on a l'habitude de gérer, donc plus on sort de ça et on va vers la position allongée, vers le calme, vers notre bulle, parce que c'est pas que être allongé, hein, il suffit pas juste d'être statique, c'est de créer en fait une petite bulle d'ocytocine, un environnement qui est favorable pour qu'on se sente bien, pour qu'on développe les bonnes hormones. Donc c'est important de sortir aussi de cette caricature de l'allonger tout en prenant conscience de l'horizontalité pour se rendre compte qu'en fait on peut tout le faire à notre échelle et en écoutant davantage nos besoins et notre corps.
Une autre question très pertinente, on vous demande s'il est compatible de se reposer tout en s'occupant d'un jeune bébé. C'est vrai que ça pose question.
Tout à fait. En fait, c'est parfois le paradoxe où on dit que c'est le moment où il faut qu'on se repose le plus de toute notre vie. Et c'est aussi le moment où on a un petit bébé dépendant qui a tout le temps besoin de nous. Donc, c'est se reposer autant qu'on peut. Bien sûr, avoir un bébé, c'est épuisant, mais c'est justement pour ça que c'est important de récupérer. Donc, on peut très bien, par exemple, on parle de la position allongée, notre bébé, on peut allaiter allongé, on peut être allongé en l'ayant un petit peu sur le buste, ce qui nous permet d'être poser, on peut... Enfin, vraiment, c'est comment j'arrive à coupler cette vie avec bébé, avec mon repos, et bien sûr, avoir du relais. Le conjoint est aussi là, à la maison, si possible, pour aider. S'il n'y a pas le conjoint, il peut y avoir, voilà, on en parlait tout à l'heure, mais une amie ou une doula, pour nous permettre de concilier les deux. Mais effectivement, c'est le grand défi, comment se reposer avec un bébé.
Gloria vous demande, j'ai lu que le mois d'or passe aussi par l'alimentation, c'est-à-dire...
Oui. Tout à fait. C'est un des grands principes de ce corps qui sort de l'état de grossesse et qui a besoin à la fois d'énormément de nutriments, de bien assimiler pour avoir de la force, tout simplement, de la vitalité. Et en même temps, vu qu'on vient d'accoucher, il y a tout notre système digestif, nos organes qui fonctionnent aussi au ralenti et qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Donc on parle de quoi? On parle d'alimentation souvent cuite, si possible, parce que ça va tout simplement, la chaleur va soutenir aussi l'ocytocine et va favoriser la digestion, ça demande moins de travail à l'estomac.
Donc on a quelqu'un qui fait à manger, du coup, parce qu'on ne peut pas se lever.
Alors, l'idée. Alors là, c'est top. Si on a quelqu'un qui fait à manger, c'est juste génial.
Ah, le papa, oui, pardon, je l'avais oublié.
Il y a les deux. Mais il y a les deux. En fait, il y a ce qui va se passer sur le moment. Donc, quand même, c'est au niveau de... Enfin, cuit, des aliments facilement digestes. Voilà. Donc, au niveau... pardon. Donc, soit, effectivement, il y a quelqu'un qui fait à manger, ça, c'est juste royal. Soit aussi, on peut anticiper. Et c'est pour ça que nous, on parle dans le cahier d'exercice, notamment sur comment on anticipe dans notre équipe du couple et avec notre réseau de Bonne Étoile, en amont, pour préparer des petits plats. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, bah, un mois, deux mois en avant, tout simplement quand on cuisine pour son repas, bah, on fait en double, on en congèle la moitié et on essaye de voir combien de repas on a besoin pour ce mois-là, combien nous on en prépare, remplir les placards avec des petites choses sèches, des oléagineux, demander aussi au réseau, des fois on ne sait pas trop comment aider, on a envie d'offrir un doudou, d'offrir...
plutôt qu'un doudou, un plat de lasagne
voilà, livré soit en avance.
Ce qui est important
de dire,
c'est l'importance du congé paternité là, qui est passé un mois l'an dernier, c'est magnifique.
Ah bah c'est magnifique.
C'est complémentaire.
C'est magnifique, c'est le minimum. J'ai envie de dire, faut-il encore le prendre ?
En tant qu'homme, si ma femme, pendant mon mois de congé mat, était allongée, vivait le mois d'or, je ne sais pas si je le vivrais bien.
Oui, d'être dans ce décalage-là. Oui. Mais c'est pour ça que je pense que c'est très important que ce ne soit pas juste.
Pardon. Du coup, j'essaie de m'imaginer.
Marie,
l'horizontalité pour tout.
Il y aura un décalage, il doit y avoir un décalage, ou alors je n'ai pas saisi toute la subtilité, mais si le père, lui, en revanche, n'est pas dans cette dynamique-là.
Effectivement, il peut y avoir un décalage, mais le décalage, il est là quand l'homme ou le deuxième parent va au travail. Ce décalage, il est là. Le creux est encore plus grand. Donc là, effectivement, il y en a un qui est plus en mouvement, mais en même temps, on fait équipe parce que la femme, elle n'est pas du tout dans l'immobilier. Enfin, dans comment dire, il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur. Oui. D'où l'importance que et les conjoints et toute la société soient sensibilisés à ça, parce que quand il y a que la femme qui se rend compte qu'elle a besoin de se reposer et qu'il se passe beaucoup de choses dans son corps, ça ne fonctionne pas. Donc plus les deuxièmes parents plus l'entourage sera sensibilisé à ce qui se passe pour la femme à ce moment-là, plus on considérera qu'en fait, il se passe beaucoup de choses pour elle, pour l'allaitement, pour sa santé plus tard. Et c'est complètement différent. Et en fait, ensemble, on peut commencer à collaborer, à préparer ses repas, à construire son équipe en amont, ce qui permet aussi d'être dans une dynamique avant. Effectivement, si on se retrouve juste après l'accouchement, ça y est, ça bascule de l'un à l'autre, ça ne va pas, il y a vraiment une construction commune.
Oui, il y a des applis pour se faire livrer à manger.
Oui, tout à fait, ça c'est très important.
Comment ça, mais bon, on peut avec des très bons restaurants.
Avec des très bons restaurants, ça peut faire partie des
cadeaux de naissance.
Non, non, c'est pas partout.
Karim, tout le monde n'a pas votre énorme salaire, coach sportif.
Mais par contre, je vais encore vous parler du Cameroun. Quand une femme accouche, il y a toujours... Moi, j'ai grandi en ville, mais il y a toujours une sœur qui vient du village ou qui vient s'occuper de tout.
C'est
donc
ça.
Une ou deux sœurs, et la maman ne fait absolument rien. Pardon.
Et moi, je me souviens, d'ailleurs, je pense que c'était une Camerounaise d'origine qui était venue témoigner dans cette émission en disant « J'ai limite eu l'impression d'être dépossédée de mon enfant, tellement toute la famille. » Alors moi, ça, c'est un truc qui me fait totalement rêver. Non, mais parce que je pense que le plus difficile pour une femme quand elle vient d'accoucher, enfin, il y a plein de choses difficiles, mais psychologiquement, c'est de se dire « Oh, cette responsabilité, et je suis seule !» Puisque mon mari ne prend pas son congé paternité ou en tout cas ne prend pas la charge mentale. Et le fait d'avoir tout à coup des aides et la transmission familiale, etc. Mais franchement, moi, pour ça, alors là, la culture africaine, ça me fait totalement rêver. Bon, eh ben, écoutez, moi, je suis fille unique. Mais on n'habite pas à Paris. Bisous à tous.
Est-ce que, selon vous, la pratique du mois d'or peut éviter la dépression du postpartum ? Alors, l'éviter, ça serait, à mon avis, un peu présomptueux. Par contre, la limiter, oui. C'est-à-dire que, notamment, un des facteurs de risque de la dépression postpartum, c'est, par exemple, l'isolement. L'isolement, que ce soit l'isolement réel, ça veut dire de se retrouver seul chez soi, démuni, perdu, mais l'isolement aussi émotionnel, parce que parfois, on est entouré de beaucoup de monde, on a plein de visites, on a du passage, mais on ne se sent pas accueilli dans ce qu'on est en train de traverser. Au final, on se sent seul, voire anormal, parce qu'on n'est pas au courant que tout ça, il y a quelque chose de vraiment naturel de vivre tout ça. Donc vraiment, et ça limite les risques de dépression postpartum par ce fait de rompre l'isolement, d'amener du soutien, de soutenir aussi les hormones favorables, aussi au niveau émotionnel, hein, au niveau hormonal, avec ce bain de cytocine.
Qui s'occupe pour moi, soutenir mes hormones.
Vous êtes spécialiste.
De celle d'Agathe.
Uniquement.
Il maintient mon oocyte aussi.
Je peux poser une question ?
Non, désolé.
Okay. Moi, je suis intrigué par le fait que vous disiez qu'il ne faille absolument rien faire physiquement. On fait le moins possible.
Il n'y a pas d'injonction.
Voilà. Mais il se fait des choses à l'intérieur. Des choses. On s'occupe de la respiration. C'est-à-dire qu'on peut se muscler les abdominaux, le périnée avec la respiration. Et encore une fois, j'insiste, Bernadette de Gasquet a beaucoup travaillé avec vous pour tout ce côté forme et tout. C'est très important, je crois.
C'est très, très important. Et quand on considère tout ce qui se passe à l'intérieur, comme vous dites, la forme, le périnée, quand on prend soin de ce bassin qui a besoin de se refermer, et on se rend compte qu'en fait, on est actif. C'est ça, aujourd'hui, le décalage. On se dit, mais non, en fait, je suis dans l'inaction, je suis immobile, je fais rien, alors qu'en fait, je suis dans une action immense.
Ça ne manque pas de pas sortir, prendre l'air.
Alors en fait, comme disait Agathe, il n'y a pas d'injonction.
Oui.
D'accord ? Il faut sortir un peu de ce truc de soit je fais le mois d'or et je suis allongée pendant 40 jours et je suis enfermée. Ok ? Effectivement, au niveau traditionnel, c'est vraiment ça. Mais il faut comprendre les principes.
Et tel que c'est pratiqué aujourd'hui, on sort quand même.
Eh bien, on l'adapte. Mais on est tellement décalé, si vous voulez, qu'en essayant d'aller vers ça, on va trouver notre milieu. Et on va trouver notre milieu sans culpabiliser. Il faut faire attention vraiment à ce que le mois d'or, ça ne devienne pas une performance.
Mmh. Merci beaucoup Marie-Maë Poulain. Son livre, si vous souhaitez en savoir plus, s'appelle Le Mois d'Or. Il s'appelle Bien vivre le premier mois après l'accouchement. Le Mois d'Or, c'est un livre avec Céline Chadla. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se retrouve sur les réseaux sociaux, quand vous le souhaitez, pour échanger. Et puis, bien sûr, dès demain sur France 2. Ciao tout le monde.